Notre conférence portera sur l'habitat médiéval en pierre à Rouen du XIIe au XVe siècle, et non sur l'habitation médiévale en général, comme cela a parfois été annoncé. Philippe Cailleux et moi-même avons travaillé sur ce sujet il y a bien longtemps, et plus particulièrement dans les années 90, en croisant nos approches historiques et archéologiques. Quelques synthèses et monographies d'édifices ont rendu compte de nos travaux, avec une dernière livraison portant en 2004 sur un édifice roman situé au sud de la cathédrale. Depuis, plus rien. D'autres sujets ont retenu notre attention, mais nous n'avons pas cessé, durant ces 15 dernières années, de collecter des données qui justifient aujourd'hui une nouvelle synthèse. Le travail est actuellement en cours et nous proposons de vous présenter les premiers résultats de nos recherches. Nous ne parlerons que d'édifices pressentis comme ayant eu une fonction principale de résidence. L'utilisation de la pierre dans la construction ne faisant pas forcément une maison en pierre, nous ne retiendrons, du point de vue archéologique, que des édifices connus par des élévations conséquentes ou, dans le cas de vestiges révélés par des fouilles, de constructions dont les murs maçonnés ont, au départ de leur élévation, une épaisseur voisine ou supérieure à 1 mètre, ce qui nous paraît disproportionné pour avoir supporté un pan de bois. De même, un cellier médiéval en pierre, même imposant, ne fera pas obligatoirement une maison en pierre. Avant d'aborder la documentation archéologique, disons quelques mots de l'iconographie à notre disposition. S'il y a peu de choses à tirer de miniatures représentant la ville de façon convenue, on s'attardera sur ce document si précieux pour l'histoire de Rouen qu'est le Livre des Fontaines. Réalisé dans le premier quart du XVIe siècle, il représente avec une étonnante fidélité une partie de la parure monumentale de la ville. L'auteur semble avoir pris moins de soin pour figurer les maisons, au sein desquelles il distingue cependant quelques édifices remarquables. Il lui était difficile de représenter dans le détail toutes les demeures, mais certains secteurs semblent avoir fait l'objet d'un traitement particulier, comme nous le montrerons plus loin. Nous ferons enfin peu appel aux plans et vues cavalières de la période moderne. L'apport des savants du XIXe siècle, constitué essentiellement de données éparses, est loin d'être négligeable. Dans les deux tomes de sa description historique des maisons de Rouen, publiés en 1821 et 1841, Eustache de la Carrière signale plusieurs maisons médiévales en pierre qui vont être emportées par les travaux du Second Empire. Le journal de Rouen, qui suit pas à pas le percement des grands axes rouennais au travers du vieux tissu urbain, est également une source d'informations importantes. Il rapporte, par exemple, en 1855, la disparition d'un édifice remarquable par son décor, rue Malpalu. Les dessinateurs complètent parfois ces informations, comme avec cette grande arche de pierre romane, aujourd'hui remontée dans la cour du musée des Antiquités, et associée depuis sa découverte en 1846 à une construction civile. Ne nous trompons pas. La maison médiévale rouennaise demeure, pour les savants du XIXe siècle, un édifice en bois, la pierre étant réservée aux constructions militaires ou religieuses. À certains édifices civils en pierre qui subsistent à cette époque dans le paysage des villes normandes, s'attachent souvent des appellations erronées telles que maison de Templiers, synagogue. La vie émise en 1836 par Achille Desvilles paraît, dans ce contexte, anachronique. Il faudra attendre 150 ans pour que soit validée son opinion. Nous en sommes encore loin. La publication en 1926 de la thèse du commandant Kennedy sur l'habitation rouennaise est une étape marquante. L'ouvrage est pionnier et l'approche du sujet préfigure ce que l'on nomme aujourd'hui l'archéologie du bâti. L'auteur conclut, au terme de son enquête, que la pierre a été peu utilisée au Moyen-Âge dans les constructions privées de Rouen. Il poursuit, C'est un fait que l'archéologie et les textes mettent en lumière. Son ouvrage prend d'autant plus d'importance que près du tiers du bâti ancien de la ville disparaît dans la première moitié des années 40 du fait de la guerre. Dans le prolongement de la reconstruction, on s'attache à restaurer le centre-ville. L'ouvrage du commandant Kennedy sert de référence. Ses conclusions sont érigées en certitude qui dispense ceux qui interviennent sur le bâti ancien toute vision critique. Les années 1960 et 1970 sont celles du toupan de bois. Rouen se crée une image à l'attention des touristes qui déambulent désormais dans des voies piétonnes. Dans les années 1930 et 1940, cependant, Georges Lanfry s'était étonné de retrouver en ville des vestiges de constructions romanes en pierre qu'il décrit avec soin, dont il dresse les plans et qui vont être appelés à intégrer notre corpus. Lorsqu'en 1976, l'engin chargé de la réfection du pavage de la cour du palais de justice met au jour les niveaux inférieurs de deux constructions romanes en pierre, la surprise est totale. Leur situation, à proximité de la rue aux Juifs, leur confère un caractère tout à fait exceptionnel. En 1982, les travaux d'extension du tribunal de grande instance sont interrompus par la découverte, au sud de la rue, de puissantes maçonneries qui correspondent à un troisième édifice roman, dont la fonction résidentielle est trahie par la présence d'un puits et de latrines dans l'épaisseur des murs. Deux ans plus tard, un relevé systématique des caves du secteur conduit à l'identification d'une quatrième construction, il s'agit de B4, qui présentait un pignon sur la rue Saint-Lô. À ces découvertes s'ajoute un cinquième édifice, contemporain des premiers, connu par des descriptions du XVIIIe et XIXe siècle. Reportées sur un même plan, ces constructions donnent de la ville médiévale une image différente de celle qu'on avait voulu nous suggérer. Nous avons dès lors cherché à savoir si cette image pouvait s'appliquer à d'autres parties de la ville. Une incursion plus poussée dans les archives médiévales et la documentation des sociétés savantes a vite livré des résultats encourageants. Dans le même temps, les travaux du centre-ville ont fait l'objet d'une surveillance accrue. Des fouilles sont entreprises en 1988 sur un terrain situé en arrière de la rue de la Pie. Les structures et niveaux médiévaux sont étudiés, qui sont mis en rapport avec un mur de pierre dont on distingue les contours sur la rive occidentale du chantier. Fouilles et relevés permettent de reconstituer pour la première fois à Rouen le mur pignon d'une construction du XIIe siècle, flanqué d'un escalier à vis et bâti sur un cellier voûté, partiellement enterré. Heureux hasard ou confirmation de l'adage qui dit qu'on ne trouve que ce que l'on cherche, l'instruction d'un permis de construire au nord de la rue Saint-Romain permet d'identifier, en 1991, des éléments d'un nouvel édifice. Celliers, murs goutteraux et portions de charpente permettent de restituer le volume d'une maison dans son état au début du XIIIe siècle. Cette fois, l'emprise au sol est connue. Mieux encore, la collation des données concernant une maison située en arrière de la rue Malpalu permet de restituer cette dernière presque intégralement. Il faut dire que l'édifice, remarqué par les historiens dès la fin du XVIIIe siècle et en grande partie détruit lors d'un bombardement en 1943, est particulièrement bien documenté du point de vue architectural. En 1994, alors que paraît une première synthèse archéologique sur le sujet, force est de constater que les données recueillies à Rouen concernent essentiellement la période romane, prise dans une fourchette chronologique allant de la fin du XIe au début du XIIIe siècle. Une quinzaine de constructions sont alors recensées, et tout nous pousse à avancer l'existence, pour cette période, de maisons-types. Les édifices sont rectangulaires, bâtis sur des celliers voûtés partiellement enterrés, éclairés par de larges fenêtres. On trouve au-dessus une grande salle sous charpente apparente, comme rue Malpalu. Le modèle est répandu en Angleterre comme en France, où il persiste durant le XIIIe siècle. L'existence de plusieurs étages est également possible. Les différents niveaux sont parfois reliés entre eux par un escalier à vis saillant, probablement destiné au service. Les celliers sont largement ouverts sur l'extérieur et l'accès au premier niveau se fait par un escalier situé hors œuvre. Il n'y a pas de raison de douter que les exemples présentés ici aient constitué un type à Rouen. Mais la règle engendre, ici comme ailleurs, quelques exceptions. C'est ainsi que l'existence de voûtes au niveau inférieur n'est pas attestée dans deux des bâtiments reconnus de part et d'autre de la rue aux Juifs, où la présence de planchers est plus probable. La grande maison romane mise au jour en 2001 par Bénédicte Guillot sur le site de l'ancienne gare routière ne comportait pas de niveau enterré. L'explication est simple. Les édifices en question avaient été érigés sur des terrains gagnés sur des zones marécageuses, ce qui rend aussi dit problématique l'existence d'un cellier. La maison s'adapte donc à cette époque à son environnement et au substrat sur lequel elle est édifiée. Le nombre de vestiges recensés permet aujourd'hui d'évoquer quelques aspects de ces édifices. Le décor sculpté, extérieur et intérieur, est courant et ne se concentre pas exclusivement autour des baies. L'existence de cheminées murales est attestée dans deux cas, représentée ici par l'exemple dégagé sur le site de la gare routière. L'alimentation en eau se fait par des puits, souvent individuels et parfois intégrés dans l'épaisseur des murs. Les latrines, enfin, ne sont pas toujours des installations extérieures plus ou moins sommaires. Une fosse est aménagée dans l'épaisseur du mur sud de la maison du 31-33 de la rue aux Juifs. Une latrine maçonnée était également associée aux constructions de la gare routière. Le plan au sol des édifices recensés, lorsqu'il est connu, montre l'existence au niveau inférieur d'ouvertures, qu'il s'agisse de fenêtres ou de portes, au moins sur deux côtés, ce qui implique l'existence d'espaces libres. C'est le cas de cette maison, la plus grande identifiée à ce jour à Rouen, située au Moyen-Âge, au sud de la rue de la Chêne, à gauche sur la diapositive. Dans sa portion, rue de la Chêne, dans sa portion devenue aujourd'hui la place des Carmes. L'édifice présentait sur la rue un pignon de pierre démoli au XIXe siècle. Philippe Cailleux a montré l'existence de ce côté de la rue, à la fin du Moyen-Âge, de vastes propriétés canoniales, dont Jacques Lelieur donne peut-être un aperçu dans son livre. Le mur très épais, retrouvé en 1989 à l'est, c'est-à-dire à droite, correspond peut-être à une autre de ces maisons. D'autres constructions étaient situées en cœur d'îlot. C'est le cas de cette grande demeure édifiée vers 1100, qui était entièrement entourée d'espaces libres et qui a été dégagée au sud de la rue aux Juifs. La fouille a permis de mettre au jour, à l'ouest, sur près de 20 mètres de longueur, un mur contemporain de la maison, épais d'un mètre et très peu fondé, que nous interprétons aujourd'hui comme étant une limite séparative. Entre la maison et le mur existaient des constructions légères en torchis et colombages dont les fondations ont été retrouvées. Les édifices qui viennent d'être évoqués subissent, dans le courant du XIIIe siècle, un certain nombre de modifications radicales. La première est une conséquence du rehaussement du sol extérieur à ces édifices, phénomène que nous avons constaté archéologiquement en divers points de la ville, mais dont nous peinons aujourd'hui à trouver la justification. Cet apport de remblai, qui pouvait approcher une épaisseur d'un mètre, entraîne la condamnation des fenêtres qui éclairaient les niveaux inférieurs. Ces dernières furent vraisemblablement remplacées par des esclaires qui sont plus des prises d'air que des sources d'éclairage, comme on a pu le constater rue Saint-Romain. L'accès au cellier est modifié, généralement par un prolongement vers le haut de des escaliers permettant d'y accéder. Ces niveaux inférieurs, désormais enterrés, deviennent plus sombres et on se demande si leur fonction ou utilisation n'a pas changé. Il n'est pas interdit de le penser en constatant que pour les édifices de la rue Malpalu, l'accès primitif au cellier, large d'1,50 m, a été remplacé par un escalier détourné, beaucoup plus étroit. Signalons l'abaissement spectaculaire du plancher du bâtiment conservé dans la crypte sous la cour du palais de justice, qui a provoqué l'arasement de la partie sommitale des fenêtres éclairant son niveau inférieur. Ce remaniement accompagne, toujours au XIIIe siècle, une refonte des distributions intérieures et extérieures de l'édifice. Au 31-33 de la rue aux Juifs, le niveau inférieur de la maison a été abaissé d'un mètre pour permettre l'insertion d'une voûte, alors qu'à l'extérieur, au nord, on a collé à l'édifice un cellier à cellules latérales. De profonds changements affectent également, à cette époque, la maison de la gare route trouvée sur le site de la gare routière. Le XIIIe siècle pourrait donc marquer la fin d'un modèle d'habitat élaboré durant la période ducale. On ne construit plus, à la fin du siècle, de salles semi-enterrées. Totalement souterrain, le cellier devient ce que l'on désignera bientôt comme cave. Nous n'avons jusqu'à présent évoqué que la période romane. C'est ce que les vestiges de cette période, constituent la majeure partie de notre documentation. Doit-on conclure à un abandon de la construction civile en pierre à la fin du Moyen-Âge ? Deux fouilles effectuées au cours des années 1990 nous apportent des éléments de réponse à cette question. La première est réalisée en 1994 par Véronique Gallien, en arrière de l'actuelle rue Victor Hugo, à l'emplacement de l'ancienne rue des Ravisés. L'endroit, marécageux, est assaini dans la première moitié du XIIIe siècle par des remblais qui supportent une rue créée à cette époque. Le secteur est loti dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Des maisons sont construites de part et d'autre de la rue. Leurs fondations sont larges et profondes, et l'épaisseur des murs, au départ de leur élévation, est comprise entre 60 et 85 cm. L'archéologue en conclut que les maisons mises au jour sur le chantier apparaissent comme de solides constructions de pierre. Une image bien de la ville, bien éloignée de celle qui nous avait été proposée. À peu de distance de là, Paola Calderoni intervient en 1997 sur un vaste terrain situé au sud de la rue Martinville. L'endroit est lui aussi occupé à partir du XIIIe siècle, dans un premier temps par des installations de tanneurs, avant d'être loti à partir de la fin du siècle. L'habitat mis en place est au moins partiellement en pierre. En cœur d'îlot, une construction maçonnée se distingue. Son niveau inférieur, très légèrement encavé, est accessible par deux escaliers. Les murs sont parmentés et leur largeur, comprise à la base entre 60 et 90 cm, indique une élévation en pierre, proposition que la responsable de la fouille confirme en relevant que la démolition du bâtiment avait laissé, je la cite, un important niveau de déchets calcaires et de mortier, à l'exclusion de tout autre matériau. Les témoignages archéologiques pour la fin du Moyen-Âge sont encore plus ténus. Le commandant Kennedy tenait cette construction située Petite Rue Nationale et dessinée par Édouard Duvaux pour un rare témoignage de maison du XVe siècle. On notera tout d'abord que son architecture s'accorderait aussi bien avec une datation un petit peu plus haute. Un rapprochement avec les plans anciens de la ville nous apprend qu'il faut voir ici une partie de la porterie de l'ancien couvent des Cordeliers. Nous ne présenterons ce soir qu'un exemple de construction en pierre du XVe siècle. Plusieurs sources concordantes, dont le livre des Fontaines, permettent de localiser la résidence en ville de Louis d'Harcourt dans le troisième quart du XVe siècle. Archevêque de Bayonne, puis évêque de Bayeux, Louis d'Harcourt fit l'acquisition à Rouen d'un grand hôtel qui fut morcelé après sa mort en 1479. Cet hôtel était en pierre et seul subsiste aujourd'hui son extrémité occidentale, à droite sur la diapositive, et plus précisément deux murs conservés sur trois niveaux dans lesquels nous avons pu reconnaître en 1994 la trace de fenêtres compartimentées par des meneaux en pierre. Les principaux sites évoqués dans mon propos ont été pointés sommairement sur un plan de la ville. Ils se répartissent, d'est en ouest, sur toute la largeur de l'emprise connue de la ville du XIIIe siècle. La maison située le plus au nord, c'est-à-dire en haut du plan, est celle de Louis d'Harcourt, que nous venons de voir. L'absence de points en bordure de Seine est due à la rareté des fouilles dans les quartiers issus de la reconstruction. Deux sites retiennent notre attention. Le premier est situé à la jonction des rues Gantry et de l'Écureuil, où des fouilles ont révélé, en 1990, la présence d'un édifice singulier. Désigné comme maison, il est réputé avoir été bâti au XIIe siècle sur l'emprise d'un fossé en partie comblé de la ville, et ses murs sont construits, chose extrêmement curieuse, en maçonnerie coulée en manche, c'est-à-dire entre deux planches. En l'absence de rapports et de publications, je ne puis aujourd'hui vous en dire beaucoup plus que le document présenté en haut à droite de la diapositive. La présence d'une maison en pan de bois, en bas à droite de la photo, n'est pas fortuite. Datée du XIIIe siècle, elle faisait partie de l'ancienne abbaye Saint-Amand et offre la particularité de comporter deux murs pignons en pierre. À l'époque qui nous occupe, certaines maisons étaient dites de bois et de pierre, point qui va être développé par Philippe Cailleux, à qui je passe la parole, non sans avoir évoqué, à travers trois photos, la maison rouennaise de l'archevêque qui nous accueille aujourd'hui.
Bien, bonsoir à tous. Donc je vais, après cette large présentation effectuée par Dominique qui nous a montré les données archéologiques à notre disposition, je vais maintenant vous convier à une évocation de ce que nous apprend la documentation textuelle entre les XIIe et XVe siècles. Tant pour des raisons de nature de l'information que de son traitement, nous reprendrons la découpe chronologique qui s'impose ici aussi à l'historien, distinguant les XIIe et XIIIe siècles des deux siècles suivants. Donc, deux parties, XIIe et XIIIe siècle, XIVe et XVe siècle. Alors, la documentation disponible pour l'étude de cette période est principalement constituée par les séries G et H des clergés séculiers et réguliers aux archives de Seine-Maritime, mais également d'autres départements normands. Ils figurent notamment en bonne place les nombreux cartulaires et obituaires du clergé normand. Soulignons que la recherche menée ne prétend pas à l'exhaustivité étant donné le volume de ces fonds. Les actes qui nous concernent sont généralement en latin et sont le plus souvent des dons ou ventes de biens immobiliers ou encore des rentes chargeant ces biens. Les transactions portent soit directement sur les constructions, soit indirectement. Ces dernières apparaissent alors dans les abordements par côté et par bout. Elle se rapporte couramment à une maison ou à un tènement, terme désignant les possessions et impliquant une unité géographique, beaucoup plus rarement à un masage ou une masure. Avant les années 1210-1220, les actes, peu nombreux, ne sont que rarement datés ou même datables, tout comme les indications du plus ancien obituaire de la cathédrale de Rouen, le G2094, du milieu du XIIIe siècle, document qui nous permet de connaître les rentes et les lieux qu'elle charge pour la célébration des services anniversaires des défunts donateurs. Ainsi, 17 mentions ne sont pas rattachables à une décennie précise. Nous avons retenu un corpus de 38 actes datés, indiquant comme matériau de construction la pierre seule ou la pierre associée au bois. Alors, on relève que les trois décennies comprises entre 1210 et 1239 représentent deux actes datés, sur les trois. À l'évidence, les rédacteurs et ou leurs clients semblent sensibles à la question des matériaux utilisés à ce moment-là. Il est intéressant de rapprocher cette répartition du texte d'une chronique qui indique en 1212 que le feu prit dans la paroisse de Saint-Maclou et brûla toute la ville de Rouen. Il épargna toutefois l'église cathédrale, les abbayes de Saint-Ouen et Saint-Lô, ainsi que les maisons de pierre que le feu ne put consumer. L'intérêt de la pierre énoncé par la chronique semble alors partagé par les habitants disposant de moyens suffisants. Faut-il supposer pour les décennies suivantes un moindre recours à la pierre ? Il semblerait plutôt que les matériaux de construction sortent pour plusieurs siècles des préoccupations des rédacteurs. Lorsqu'ils apportent une précision sur la nature des matériaux, les formulations rencontrées se limitent pour la grande majorité aux quatre formes tenementum lapideum et ou tenementum lapideum et ligneum ou encore domum lapideam ou domum ligneam et lapideam, c'est-à-dire tènement ou maison de pierre ou tènement ou maison de bois et de pierre. Un adjectif est exceptionnellement ajouté en 1251. Une rente se prend in paroi domo lapidea sur une petite maison de pierre. L'expression magnam domum lapideam, voire même grandem domum lapideam, est tout aussi rare, se rencontre en revanche beaucoup plus fréquemment aux deux siècles suivants. L'organisation des parcelles est à peine perceptible. Tout juste peut-on registrer l'existence de deux maisons voisines en pierre, d'une maison en arrière d'une autre, ou au contraire, en bordure de rue, et à l'occasion, l'existence d'un jardin. Un étal à boucher est dit devant la maison de Pierre, Dugue et Robert Fils-Alain à la porte Massacre. Un seul acte, en mars 1231, nous en dit davantage d'un tènement de bois et de pierre appelé le donjon. Cédé par Laurent du Donjon à Renaud du Châtel, il comporte alors tourelle, jardin, vivier, mur de clôture et toutes les appartenances du dit manoir. Notons à ce propos que, contrairement à la maison de bois et de pierre, le tènement, surtout quand il est de vastes dimensions, peut comporter des édifices en pierre et d'autres en bois. Quant à ce tènement de la paroisse Saint-Maclou, il comporte en 1241 une maison close de toutes parts de murs de pierre et couverte de tuiles avec un cellier voûté, au-dessus une grande salle, quatre chambres, une garde-robe, une dépense et des greniers tout en haut. On y trouvait encore des dépendances, deux étables, un fenil, une seule, une cuisine, un verger devant, un autre derrière, ainsi qu'un puits. La description évoque une grande maison au centre de dépendances nombreuses et variées. Il y manque toutefois l'indication des matériaux de construction des murs de la maison proprement dite. La quête de l'historien se révèle donc décevante pour cette période, pour ce qui ressort de l'organisation des parcelles. Fort heureusement, l'archéologie nous en apprend bien davantage, comme nous l'a montré Dominique Pic. Les habitations rencontrées se répartissent sur 20 des 33 paroisses incluses dans la dernière enceinte de la ville. Les paroisses Saint-Étienne de la Grande Église, Notre-Dame-la-Ronde, Saint-Amand, Saint-Denis à l'intérieur du tracé de la première enceinte, mais également les paroisses Saint-Éloi et Saint-Maclou, se distinguent par un nombre élevé des maisons, comprises entre 4 et 6 pour chacune d'elles. Les paroisses non représentées sont presque toutes localisées dans le pourtour nord de la ville, inclus dans l'enceinte plus tardivement. Donc les points verts désignent les paroisses pour lesquelles on a la mention de maisons en pierre, et pour quelques-unes d'entre elles, en bois et en pierre. Mais il n'est pas raisonnable de tirer une conclusion dans la mesure où 12 de ces maisons ne sont pas rattachées avec certitude à une paroisse. Que sait-on des tenants de ces habitations ? Deux groupes principaux se distinguent, le clergé séculier, dignement représenté. Les travaux de David Speer sur le chapitre de la cathédrale de Rouen au XIIe et XIIIe siècle fournissent de précieuses indications. Jean-Fils Luc, chanoine de Rouen, puis évêque d'Évreux, de 1181 à 1192, mais aussi des dignitaires et officiers du chapitre cathédral, et notamment un chancelier, maître Réginald Buglarius, vers 1168, ainsi que des archidiacres, tels Gauthier de Saint-Valéry, de 1175 à 1207. Parmi les chanoines, relevons le cas de Drogon de Trubleville, issu d'une famille noble du pays de Caux, d'abord chanoine de Lincoln. Il accompagne Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade. Chanoine de Rouen de 1199 à 1206, au moins, il donna au chapitre de Notre-Dame une rente sur la maison de pierre qu'il avait fait édifier en la rue Saint-Denis, ainsi qu'un reliquaire ou châsse de Saint-Sever, conservé au musée des Antiquités, où se trouve également sa plaque tombale. Alors, un commentaire sur un point. Le chapitre de Rouen est très fortement représenté, il est même surreprésenté dans la mesure où l'une des sources qui donne le plus d'indications, c'est un des obituaires de la cathédrale, et les chanoines font énormément de donations à l'église à laquelle ils appartiennent et dans laquelle ils ont des prébendes. Donc il est assez naturel de trouver cette surreprésentation du milieu canonial rouennais. Le clergé régulier n'est toutefois pas absent. Citons par exemple les religieux de Cormeil, bénédictins du diocèse de Lisieux, qui prennent d'un particulier, en 1238, un tènement de bois et de pierre en la paroisse Saint-Maclou. On relève également la présence de membres du groupe restreint des familles qui se partagent le premier rôle du pouvoir communal, celui du maire. Appartiennent à ce groupe patriarcal Guillaume Trangeron, Hugues et Robert fils d'Alain, Laurent du Donjon et Renaud du Chastel. La commodité de présentation ne doit pas faire oublier l'appartenance aux deux groupes de certains, comme Jean fils Luc, évêque d'Évreux déjà cité, et parent, selon Léopold de Lille, de Jehan Luce, maire de Rouen à 7 reprises, entre 1206 et 1217. Alors, on va donc maintenant aborder la deuxième partie de cette présentation, les 14e et 15e siècles. Avec cette période, la masse documentaire s'élargit considérablement. L'apport crucial est dû au registre du tabellionnage, conservé aux trois quarts entre 1360 et 1500, mais également aux diverses comptabilités parvenues jusqu'à nous. C'est l'exemple que je vous ai mis ici, puisque il s'agit d'un compte du chapitre de Rouen. Et la personne qui tenait les comptes pour le chapitre était appelée le clerc de ville, donc on parle des comptes du clerc de ville. Celui-ci correspond au milieu du XVe siècle, à la période de la fin de la présence anglaise à Rouen, 1448-1449. Et l'exemple que je vous ai mis en effet de loupe, c'est nous présente et dit « Adicto Michaele Dutot, pro domo lapidea, cita ante revestiarum ». On est dans la paroisse Saint-Étienne de la Grande Église, et c'est donc une maison de pierre qui appartenait à une importante famille de Rouen, qui était les Dutotes, et cette maison de pierre se trouvait donc devant le revestiaire de la cathédrale, c'est-à-dire à quelques pas d'ici. Pour cette période, on recense une quarantaine de maisons ou tènements, dont les 9 dixièmes sont en pierre, les autres présentant un pignon de pierre sur rue plutôt que sur jardin. Un seul cas nous parle d'une maison dont les côtés sont de pierre. Agencement qui limite les risques de propagation des incendies, mais qui paraît peu diffusé à Rouen. Pour la très grande majorité des biens, il ne semble pas y avoir de lien entre les actes les concernant et ceux de la période précédente. C'est-à-dire que, par rapport à la période précédente, on peut additionner le comptage des maisons, car il n'y en a qu'une ou deux qui sont communes aux deux séries. Elles sont localisées sur une vingtaine de paroisses, et l'on retrouve pour l'essentiel les paroisses déjà citées. Il n'en reste pas moins que la mention des matériaux de construction reste exceptionnelle. On trouve rarement mentionné deux fois la pierre, même lorsqu'il existe plusieurs transactions se rattachant à une même parcelle. Donc une maison dite de pierre va être dite une fois, et dans les 3, 4, 5, 10 autres actes de vente, on ne dira rien des matériaux. Il faut alors être attentif aux détails. La maison de pierre venue aux mains d'Hugues, fils d'Alain, en 1231, qui est une famille de bouchers, qui était à la porte massacre, est au début du XIIIe siècle la propriété des religieux de Saint-Pierre et Saint-Paul de Castillon-les-Conches, qui en 1434 en louent une partie. L'évocation dans la délimitation de la partie louée du premier pilier de la maison suggère une résidence en pierre, sans que l'on puisse tabler avec certitude sur la subsistance du même édifice. Les durées de vie de ces habitations nous échappent donc généralement. La seconde difficulté pour l'historien réside dans le fait que l'édifice mentionné peut très bien décrire un habitat antérieur au XIVe siècle, massivement représenté dans les constructions ayant survécu, comme nous venons de le voir. Et les mentions de construction neuve sont tout aussi rares. Dans l'ouvrage issu de ma thèse et consacré à trois paroisses de la ville, j'avais attiré l'attention sur une rue particulièrement intéressante de ce secteur, des paroisses Saint-Lô, Notre-Dame-la-Ronde et Saint-Herblanc, qui va venir utilement illustrer mon propos. Il s'agit de la rue du Bec, menant de la rue Courvoiserie, actuelle, rue des Gourdes Horloges, à la rue aux Juifs, sur une longueur supérieure à 80 mètres. Je vous l'ai repéré avec une flèche rouge verticale. Cette rue porte divers noms au XVe siècle. Rue de l'Écu de France, rue du Bailli ou encore rue Guillemet-le-Comte. Quel paysage offrait-elle vers 1430 alors que la ville est placée sous domination anglaise? À l'angle sud-est de la rue se trouvait la maison que Pierre Sureau, receveur général de Normandie, habita de 1426 à 1434, année de son décès. Elle passe ensuite à ses descendants. Un premier acte fait simplement mention d'une maison éteignement à deux pignons sur rue, auquel pend pour enseigne la cloche, vendue par les héritiers de Monseigneur Nicole Dubosc, évêque de Bayeux. Le prix atteint la somme élevée de 1500 livres tournois. La maison voisine est acquise par le même en 1432. Selon son inventaire après décès, car il s'agit d'un des rares personnages pour lesquels on bénéficie à cette époque de l'existence d'un inventaire après décès. Et cette demeure comportait pas moins de 21 pièces, dont 8 chambres, 2 salles, 2 comptoirs, ainsi qu'une chapelle et divers locaux tels que cuisine, dépenses, cellier, seule, étable, galerie, 2 greniers, une grande cour. Raymond Quenedet pensait qu'elle s'organisait en 2 étages et 3 corps de bâtiments. Ni les actes de vente successifs, ni l'inventaire après décès ne mentionnent de matériaux de construction. Sans les déclarations des témoins intervenant dans une procédure entamée entre 1420 et 1455 et achevée en 1455, entre le curé de Saint-Lô d'une part et celui de Saint-Herblanc pour savoir de quelle paroisse relève une maison voisine, je n'aurais pas pu montrer que ces vastes demeures est une demeure de pierre. Soulignons la fragilité et la difficulté d'obtenir les informations. Et on pourra remarquer que l'organisation ainsi que le nombre des pièces évoquent bien davantage les 14e et 15e siècles. Bornant au nord et à l'est, la maison de Pierre Sureau. Et donc, on est toujours sur le côté est de la rue du Bec. Et atteignant la rue aux Juifs, le manoir de la Fontaine, devant lequel passait le cours de la Fontaine du Chapitre, est acquis par les religieux du Béquelois en 1429. Donc ça veut dire qu'on avait deux propriétés qui faisaient les 80 mètres de rue, hein, tout simplement sur la droite, puisqu'on passait de la maison de Pierre Sureau au manoir des religieux du Béquelois. Il contient en 1434 plusieurs maisons, jardins, cours, le droit des fontaines, avec une maison, le Perrin, terme que l'on retrouve ailleurs, en particulier dans l'Eure, pour désigner une maison en pierre. Je pense même qu'il s'agit en fait d'une maison en pierre qui donne accès à la maison. C'est-à-dire, c'est peut-être un terme qu'on trouve employé pour des éléments qui seraient une sorte de porterie, en fait. Je l'ai trouvé également pour pour une maison de la paroisse Saint-Martin-sur-Onel. Et ça s'est rencontré dans l'Eure, à Verneuil-sur-Avre. Ça se rencontre aussi à Conches, je crois, si je me souviens bien. Donc, une maison, le Perrin et l'allée qui part du dit manoir, passant parmi le dit Perrin et à son issue en la rue de Courvoiserie, donc la rue du Gros Horloge. Par les mentions des témoins déjà évoqués, on apprend que l'entrée principale se trouvait sur la rue du Bailli, qui est l'ancien nom de la rue du Bec, mais que l'on pouvait accéder au manoir par la grande porte de pierre de la rue aux Juifs. À proximité de cette rue se trouvait la chapelle, édifiée antérieurement à la présence des religieux, et non loin, un bâtiment désigné comme la Magna Aula, à différencier de, donc la grande salle, à différencier de l'Aula Bassa Propre Fonte, donc de la salle basse à côté de la fontaine. L'ensemble incluait également une tour de pierre. Eustache de la Carrière, qui en attribuait la construction aux religieux, nous dit en 1821 qu'il subsistait un vieux bâtiment en pierre à plusieurs étages au long de la rue du Bec. La description qu'ils nous ont fait est assez vague pour essayer de dater. Mais j'ai repris celle que nous donne Charles de Beaurepaire, qui sur ce terrain-là est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus précise. Je le cite. Au pied de cette tourelle, au rez-de-chaussée, se trouve une salle comportant deux travées de voûte construites dans le style ogival, sans chapiteau ni pilier. Les arceaux de la voûte, taillés en forme d'amande, me semble annoncer la fin du XIVe siècle ou la première moitié du XVe siècle. Toujours pour la rue du Bec, Eustache de la Carrière nous dit également qu'en face de cette maison, donc côté ouest de la rue, on voit un vieux mur de pierre de hauteur d'étage paraissant être du même temps. Il s'étend depuis le milieu de la rue du Bec jusque dans la rue aux Juifs et plusieurs maisons sont portées dessus. Il s'agit de la parcelle au cœur de laquelle se trouvait le bâtiment appelé B3, que nous avons vu tout à l'heure, Dominique nous l'a montré, et souvent attribué, hypothèse plausible mais non certaine, à Bonneville-le-Juif. Cette demeure est en 1285 aux mains de Jean du Change, très probablement celui qui figure à trois reprises dans la liste des maires de Rouen peu avant cette date. J'ai pu établir l'existence sur la parcelle de ce manoir, d'un second édifice ou manoir comportant au XVe siècle au moins un cellier voûté surmonté d'une salle elle-même voûtée. C'est probablement ce dernier manoir que Jean de Nonancourt, archidiacre du Vexin normand, donnait en 1348 à la fabrique de la cathédrale. Il faut souligner le changement d'orientation et d'emplacement qui se produit alors. Le premier manoir était orienté grossièrement nord-sud. Ce nouveau manoir est, lui, orienté est-ouest. Le premier était en retrait par rapport à la rue aux Juifs. Le second, lui, donne sur la rue du Bec. À l'arrière, c'est un jardin qui recouvre les vestiges de la première construction. Alors ici, je vous ai reproduit les hypothèses de restitution qui sont assez fortes, en particulier pour le manoir de Jean de Nonancourt, donc la partie à l'ouest, celui qui relevait du chapitre, en fait, qui appartenait à la fabrique de la cathédrale, mais c'était géré par le chapitre. et une maison canoniale dont on va en reparler des occupants dans peu de temps. Le manoir de La Fontaine donc, se trouvait en face, et la maison de Pierre Sureau, dont les contours sont plus difficiles à déterminer, c'est pour ça que le dessin en est moins précis, occupait l'angle sud-est donc de cette rue et de la rue du Gros Horloge. Donc, si je me suis attardé sur ce secteur précis, c'est pour souligner l'ampleur des parcelles concernées, la diversité des édifices construits, mais également l'existence, au-delà du XIIIe siècle, d'une construction en pierre à Rouen. Dominique posait la question tout à l'heure en disant on a beaucoup d'édifices, on trouve beaucoup d'édifices des XIIe et XIIIe siècles, mais là, nous avons des exemples d'édifices qui correspondent à la période suivante. Donc, les mentions répétées au XIVe et XVe siècle. Ces vestiges sont moins nombreux, hein, c'est certain, tout de même. Mais on constate souvent, au XIVe et XVe siècle, dans les textes, qu'on nous parle de celliers à l'arrière de l'habitation principale, souvent surmontés d'un jardin ou d'une cour. Et ces éléments témoignent du déplacement du corps de logis principal vers la rue. Position qui, à mon sens, rend sa survie plus problématique. Et les époques se succédant ont tendance à occuper l'espace le long de la rue et à détruire les édifices plus anciens. Intéressons-nous maintenant aux occupants de cette demeure. Le chapitre cathédral utilise les maisons canoniales principalement pour loger des chanoines. Mais il pratique également la location de ses biens à des nobles résidant en ville ou encore à des bourgeois rouennais ou non. Ainsi, dans l'hôtel à l'ouest de la rue du Bec, se succèdent depuis la fin du XIVe siècle maître Gaspard Carrick, chanoine, puis en 1415, Jean Petit, vicomte de Rouen, chassé par l'entrée des Bourguignons à Rouen et remplacé par Guillaume de Houdetot, chevalier, bailli de Rouen, jusqu'à la reddition de la ville. Lui succèdent alors plusieurs Anglais, Jean de Robessart, le comte de Suffolk, puis Jean de Kinclay, bailli anglais, puis durant 26 ans, on retrouve des hommes d'église, Jehan Basset, chanoine, puis Nicolas Avard, évêque de Bayeux, qui le partageait avec Jacques de Calais, conseiller du roi. Seuls des chanoines sont signalés pour la deuxième partie du XVe siècle. De l'autre côté de la rue, le manoir des Fontaines appartient dans le courant du XIVe siècle à un certain Vincent Michel, cité en 1333 à propos de la fondation par sa mère Alice d'une chapelle en l'honneur de Saint Jean-Baptiste en l'église Saint-Herblain. Il peut d'ailleurs s'agir du maire de Rouen pour l'année 1314-1315. Le manoir passe ensuite en 1370 aux mains de Michel Lecomte, avocat et conseiller du roi, puis de son fils Guillaume, qui le loue à plusieurs reprises à Guillaume de Bellange, chevalier et capitaine de la ville, puis à Jean de la Tuile, bailli de Rouen, à qui succède un autre bailli, Hugues de Doncaire. La désignation de rue du bailli était décidément bien justifiée. Après l'entrée des Anglais à Rouen en 1419, l'habite le comte de Warwick, le duc de Gloucester, de Norfolk, puis l'abbé du Bec-et-Loing, Robert Vallée, qui finalement le fait acheter, comme nous l'avons vu, en 1429. Charles Beaurepaire nous dit que Thomas Frick, son successeur, y fit faire de somptueuses réparations et que les moines ne l'occupent que de rares occasions dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette pratique de la location de maisons en pierre par des nobles anglais se retrouve ailleurs, comme en la paroisse Saint-Candé-le-Jeune pour Raoul de Neuville, comte de Westmoreland, en 1420. Pour terminer cette présentation, comment ne pas évoquer le livre des Fontaines, dont a déjà parlé Dominique, remis aux échevins de la ville en 1525 par Jacques Lelieur, auteur et dessinateur de l'ouvrage. Les représentations des maisons urbaines associent des formes standardisées et répétitives, Dominique vous l'a déjà dit, et au milieu desquelles se trouvent des vignettes présentant un caractère plus élaboré et des détails architecturaux parfois très précis qu'il est intéressant de confronter aux données quand on en dispose. Nous avons retenu pour aujourd'hui trois représentations. La première concerne une maison à mur Goutreau-sur-Rue en face de l'église des Cordeliers, avec deux ouvertures basses et surtout deux fenêtres hautes en pierre. On notera que le dessin du cours de la fontaine de Yonville, finissant au même endroit, nous montre au même emplacement une forme totalement standardisée ou un vide de la représentation. Donc selon le cours qu'il suit, il peut dessiner ou ne pas représenter les maisons. Donc, on peut se demander s'il ne s'agit pas de la grande maison de pierre en face des Cordeliers qui est citée dans un acte de 1467. La deuxième est consacrée à la maison urbaine de Roger Gouel, écuyer, seigneur de Pauville et président de la cour des aides. Elle se trouvait sur la paroisse Sainte-Croix de Saint-Ouen, en la rue du même nom, aujourd'hui rue des Faux. Sur la gauche, une porte paraît plutôt donner sur une allée, menant à une cour ou à un jardin à l'arrière de la maison. La façade de pierre est-elle surmontée de pans de bois à hauteur du quatrième niveau? Ce n'est pas totalement sûr, ce n'est pas exclu non plus, étant donné l'imprécision du tracé, mais on est probablement au niveau des greniers. Quant à l'auteur, il livre un dessin de sa propre maison, le Tellement des Flagons, en la rue de la Sauvonnerie ou Saunerie, non loin de l'église de Saint-Martin-du-Bout-du-Pont, en la paroisse du même nom. On remarquera dans cette façade de pierre la très haute porte d'accès. Alfred Cernet y voyait à juste titre une porte cochère donnant accès à une cour sur laquelle se trouvait probablement l'entrée de la maison elle-même. Le dessin d'une ouverture plus importante que les autres, à l'étage, évoque fortement une fenêtre à meneaux, nouveauté inscrite dans une façade plutôt austère. Ces quelques exemples nous démontrent que l'élite nobiliaire et guerrière anglaise, tout comme les baillis et vicomtes royaux, les gens de finance, de justice et d'église, tout comme les familles aisées de la bourgeoisie rouennaise, appréciaient cet habitat qui se rapprochait de leur habitat seigneurial. Vous comprendrez pourquoi leurs demeures rouennaises font partie de mes axes de recherche depuis quelque temps. Et pour conclure nos deux interventions, donc je vous dirais que les données qui sont actuellement présentées ont au moins un point commun, c'est qu'elles témoignent toutes de l'importance de l'habitation en pierre. Plus d'une centaine d'édifices attestés du côté de l'histoire, qui ne coïncident pas non plus systématiquement avec les connaissances archéologiques. Donc on est quelque part entre 120 et 130 édifices minimum, hein, dont on a la connaissance. Mais ils sont aussi notables par leur superficie ainsi que le statut social de leurs occupants. La chronologie des deux documentations semble introduire une différence d'appréciation. Celle de l'archéologue diminue très nettement pour les deux derniers siècles du Moyen-Âge, alors que l'historien voit pour la même période croître les indications de maisons en pierre. L'archéologue peut se demander si les maisons de la fin du Moyen-Âge, moins visibles et moins spectaculaires, ne sont pas passées inaperçues. Quant à l'historien, il ne peut qu'exceptionnellement dater une construction et reste la plupart du temps dans l'incertitude quant à son origine. Faut-il considérer le XVIe siècle dès lors comme une période de résurgence de la construction maçonnée, l'époque de la première et de la deuxième Renaissance romaine, par exemple, ou au contraire, y voir un mouvement de prolongement des siècles précédents. Nous nous garderons de répondre aujourd'hui à cette question qui reste ouverte, largement ouverte. L'usage de la pierre, en milieu urbain en tout cas, ne se limite pas à l'habitation. Les châteaux, les fortifications, tours, portes, courtines, beffroi, la vicomté de l'eau, les halles, les églises, les monastères, les fontaines, les chapelles privées dans les habitations, les murs de clôture des différents bâtiments, le grand pont, constituent un ensemble d'éléments qui attestent de l'importance de l'élément minéral dans le paysage urbain rouennais. La recherche que nous venons de vous présenter n'est pas achevée. La recension des bâtiments est à poursuivre. Et il nous faut, dans les mois qui viennent, reprendre les données de fouilles anciennes, et notamment celles du tunnel Saint-Herblanc et des deux bâtiments au sud de la rue aux Juifs. La documentation collectée nous paraît toutefois suffisamment riche pour pouvoir envisager, dans un délai raisonnable, une publication de l'ensemble de ces données. Merci de votre attention.